Et tiens, parlons du, on pourrait dire presque le premier auteur comique connu de l'histoire, cet Aristophane. Alors avec vous, Juliette Arnaud, une plongée dans le théâtre de la Grèce antique.
Oui, alors que je ne parvenais pas à trouver de réponse correcte à la question avec quelle œuvre littéraire terminer cette année d'épidémie avant une année d'élection présidentielle, j'ai fait avec toute l'humilité nécessaire ce que tout être humain depuis toujours fait dans ces situations typiques de troubles et de perplexité. J'ai fait comme Ophélie Winter, j'ai levé les yeux au ciel et là j'ai vu la lumière. Dieu, donc, tout simplement, enfin, c'est-à-dire la mienne de Dieu, Bette Davis, l'actrice, et je l'ai distinctement entendue me dire, il y a un moment dans la vie de chaque femme où la seule chose qui aide est une coupe de champagne. Amen ! Une coupe de champagne plus tard, ou un Jéroboam, ne soyons pas mesquins. La lumière m'est venue, j'ai l'honneur de vous présenter une pièce de théâtre intitulée Lysistrata, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est une comédie qui traite d'actu et dont la patronne est une femme. Bref, c'est comme si Aristophane l'avait écrite pour par Jupiter. Oui, alors bien sûr, l'actu de l'époque, c'est pas tout à fait la même. Moins de 5G, plus de Dieu, mais une chose éternelle, la guerre.
Ah oui.
Ici, celle du Péloponnèse, en gros entre Athènes et Sparte, sur des décennies et qui n'en finit pas de recommencer et de refinir. Et Aristophane imagine une femme, Lysistrata, qui au début de la pièce se dit que là, la carafe, elle est haute. Ou, en langage féminin, la couche est pleine. Oui, Lysistrata est une femme de l'Antiquité. Ce qui la définit, c'est son foyer, son mari, ses mômes, qu'on envoie à la guerre, les mômes. Quand ils sont des garçons, le mari, super. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Lysistrata? Eh ben, d'abord, au début de la pièce, elle attend. Alors, pas que la guerre s'arrête toute seule, hein. Elle attend ses copines, ses voisines, mais aussi d'autres femmes qu'elle a convoquées de partout, de Sparte, de Béotie, de tous les coins de la Grèce. Bon, les femmes sont en retard, Lysistrata fulmine un peu, mais les voilà qui arrivent, et là, elle va droit au but. Elle dit, si vous m'écoutez, si vous suivez ma stratégie, toutes ensemble, nous sauverons l'Hellade. L'Hellade, c'est-à-dire cette partie du sud de la Grèce, où il y a Sparte et Athènes. Et une des femmes de lui répondre qu'entre leurs robes, leurs chaussures chic et leur maquillage, face aux armes et aux équipements des mecs, c'est pas gagné. Lysistrata répond, et je la cite, « C'est précisément là ce qui nous sauvera, j'espère, les petites tuniques safranées, les essences, les chemisettes transparentes. » Puis, elle précise sa pensée pour contraindre leurs mecs à faire la paix. Je la cite, traduction Hilaire Vandel, « Il faut nous abstenir » du membre. Alors, les pitchounes, le membre, c'est le kiki des garçons. Hein, et Aristophane, il le dit tout à fait explicitement, le membre, c'est-à-dire le pénis, c'est tout à fait ça qu'Aristophane écrit.
Il ne dit pas kiki.
Il dit le membre, 5 siècles avant Jésus-Christ. Alors, les éditions La Pléiade ont choisi de traduire par kékette, mais mon édition à moi, les éditions des belles lettres, on choisit le membre, et je pense qu'elles ont raison, les belles lettres, contre la Pléiade, parce qu'Aristophane, il ne joue pas aux gamins. Lysistrata, c'est pas une gamine, c'est une femme faite, une femme mûre, c'est pas une gosse qui dirait, à partir de maintenant, on fait plus... Non. Lysistrata désigne la chose par son terme le plus plat, il n'y a pas de sous-entendu Alex, et comme elle est grecque de l'Antiquité, elle n'a pas peur des réalités les plus basses, de l'obscénité, de ce qui est provoquant et drôle. Bref, nous y voilà, les femmes sont bon an mal an convaincues, et toutes ensemble, ça c'est le précieux posé de départ, en avant-trinquant pour la grève du sexe, à une époque où la notion de grève est tellement relative qu'en grec ancien, ce mot n'existe pas. C'est vous dire à quel point Aristophane, qui est vraiment le père de la comédie occidentale, dont vous tous, Guillaume, Alex, Jamil, Charline, vous êtes les enfants, vous dire à quel point le mec est futé. Et pour bien rester ensemble, les femmes, et ne pas se faire déborder, direction l'acropole où est le trésor, en gros c'est Bercy, et les femmes s'y installent et attendent de voir comment les hommes réagissent. Et là, les hommes... La semaine prochaine.
Ouais, si, c'est chouette, comme ça il y a du suspense.
Bisous.
Ah,
merci.
Merci beaucoup Juliette Arnaud pour ce choix. Alors, il y a un balèze dans ce studio, soit c'est pour déménager les meubles.
Soit c'est pour tousser.
Soit c'est pour soit c'est pour nous parler de musique.
Ben oui, je le vois, il frétille déjà pour ce France-Portugal. Il ne sait pas s'il va supporter la bourrée ou le fado. C'est Djoubaka.
Eh ouais, bon, bah, c'est le retour des bonnes histoires de Djoubator. Alors maintenant, je vous dresse le portrait de groupe et de chanteurs et de chanteuses qui sont, comme ceux qui ne savent pas, hein, sortis des radars. Alors tous ces Gus et Gisquettes ont eu leur heure de gloire et pourtant on les met parfois un peu sous le tapis. mais ils vont pas bouffer la poussière longtemps puisque je suis là. Car aujourd'hui, on s'esgourde avec le second couteau. Et comme je le dis souvent, vaut mieux avoir une bonne chanson à son actif plutôt que 40 moyennes. Ceci étant dit...
Vous pensez à qui en particulier ?
Personne. Ceci étant dit, le groupe dont je vous cause aujourd'hui doit son succès à un autre. Ils ont fait une adaptation, une bonne cover, et hop, la vie change. Donc aujourd'hui, on parle des Kingsmen. C'est un groupe de Portland, en Oregon. Au départ, c'est un groupe de potes un peu boutonneux encore, qui jouent dans les fêtes commerciales, ou dans leur, enfin leur tournée, c'est d'aller faire la Croix-Rouge et bien après la semaine de promotion au supermarché. Mais leur but dans la vie, c'est de devenir un groupe qui joue dans un bateau de croisière. Ça, c'est leur idéal. Et ils ont des envies de voyage et ils vont joindre l'utile à l'agréable. Donc vous l'avez compris, ces gars-là, ils n'imaginent pas du tout se retrouver... dans le milieu de l'industrie de la musique, hein. Pas du tout, devenir des stars plaquées, or c'est pas ça qui les intéresse. Ils ont le rêve sans fioriture. Et en 62, ils jouent dans un club pour gamins, et avant de monter sur scène, c'est le public qui s'occupe de la musique et qui met des sous dans le jukebox. Et là, ils entendent une chanson où tout le monde se lève à chaque fois, ils disent « ça c'est bien, ça pourrait être notre carte de visite, un peu notre maquette, ça va faire l'unanimité ». Et cette chanson, c'est « Louis Louis » qu'a écrit un certain Richard Berry, et la version qu'ils écoutent, parce que je dis ça pour les pointilleux et pointilleuses, ils en ont, c'est « Rockin' Robin Roberts on the Weller ». Non, j'attends le nom du groupe, donc c'est pour ça que je dis. Alors, cette chanson, c'est donc Louis Louis. Ils disent, bon, on va se faire ce titre. Parce que comme ça, on pourra avoir une maquette pour partir sur notre paquebot pour l'Australie. Donc ils vont en studio, ils mettent une quarantaine de dollars dans le pot commun, et le chanteur Jack Healy se ramène avec une partition de fortune, une grille d'accord, et roule ma poule. Bon, pour faire genre un peu live, un peu on est des bêtes de scène, ils ont disposé les micros tout en haut sur le plafond du studio. Donc Jack Healy va chanter la tête un peu en arrière, voilà, et puis à l'époque il avait encore un appareil dentaire, ils sont jeunes, hein. Qui avait pour conséquence de ne pas lui faire de lui quand même le roi de l'articulation, un peu comme moi. Autre caillou dans la gorge, notre gars ne connaissait pas la chanson originale du bout des doigts. Donc, comme il est mal disposé, il va plutôt hurler à disposition du micro. Et encore aujourd'hui, des fois il finit pas les phrases, on a du mal à le comprendre. C'est pas clair. En plus, bon, pendant l'enregistrement, il commence le troisième couplet, mais un peu en retard. Et puis il attend que les autres le rejoignent, mais il s'arrête pas pour autant, il recommence pas.
C'est un peu un boulet,
gars. C'est un gars comme ça. Hein. Donc, personne n'entend réellement non plus que les autres sont en train de jouer. Ils sont à fond la caisse. Et là, il y a un apprenti manager, parce qu'il en faut toujours un, qui s'est collé au groupe, qui lui fait « Votre version, elle est géniale. » Et heureusement, il avait raison. Donc, les Kingsmen, ils veulent faire une version plus prog pour le palbo. On leur dit « Non, 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 laisse tomber, c'est bon, quoi. » C'est alors que le patron d'un label de rock garage, qui s'appelle Jerry Denon, va entendre cette version et la faire presser à plusieurs exemplaires parce qu'il la trouve vachement bien. Et bon, ils vont se retrouver numéro 1 des rites parades, comme on disait à l'époque. Mais alors, ce succès n'est pas du goût de tout le monde. C'est là que ça se complique. Comme le chant de Jack Healy est un peu étrange, en 64, il y a un sénateur de l'Indiana qui s'appelle Matthew E. Welch qui y entend des paroles obscènes. Et pour ne pas pervertir sa jeunesse, il l'a fait interdire et il demande une enquête au FBI. Et ces derniers finiront par conclure qu'on ne comprend rien à ce que dit juste Jackie Healy. Le dossier est bouclé. Voilà, parce que Louis Louis, c'est juste l'histoire d'un mec qui veut prendre un bateau pour rejoindre sa belle en Jamaïque. Donc on n'est pas quand même dans un univers de perversité diabolique. Bref, on estime aujourd'hui qu'il existe au moins 1000 versions enregistrées de ce disque. C'est une des chansons fondatrices du Grog Garage. Comme quoi, le hasard fait parfois vraiment bien les choses.
Oh,
go, quoi. Les Kings Men, Louis.
Eh, hey, merci beaucoup, Chewbacca. France Inter.